le mardi soir à 20h. Écoutez l'autre musique sur Attitude.
Oui, l'autre musique sur Attitude. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année. On est le 2 janvier 2024 et comme on vous l'avait dit mardi dernier avec Patrice, c'est un cadeau qu'on vous fera, je pense. On va essayer avec Patrice de vous faire ça tous les ans, de vous faire en fin d'année comme ça deux émissions entre Noël et après le premier de l'an. Donc mardi dernier, c'était les Beach Boys. Je sais que ça a pas mal plu. Et donc ce soir, Patrice, bonsoir, c'est les Beatles.
Eh bien bonsoir mon cher Stéphane, hein. On va commencer l'année sur les chapeaux de roue, hein. Un début d'année 2024, ça ne s'improvise pas mon petit Stéphane. Et là on va donc là à un deuxième immense groupe des années 60, les Beatles. Alors les Beatles, alors je pense qu'il n'y a pas plus connu et méconnu que les Beatles. On a tous en tête les tubes des Beatles qui ont été repris alors sous toute forme musicale quelle qu'elle soit, enfin bon. Alors les Beatles, c'est vraiment un groupe caméléon qui, à partir de, allez, on va dire 1966, sort des albums dans lesquels aucune chanson ne se ressemble. Toutes les chansons sont complètement différentes. Et alors un jour, Paul McCartney lit un magazine musical et il lit une chronique sur un 45 tours des Who, qui à l'époque est considéré comme le groupe qui fait du rock qui envoie, quoi. Et quand McCartney lit ça, il dit tiens, il n'a pas écouté le 45 tours, il dit tiens, je vais l'écouter. Et puis quand il écoute, il se dit c'est ça qu'ils appellent du rock, tu vas voir, moi je vais vous en faire du rock. Alors à ce moment-là, faut savoir aussi que les Beatles traversent une grave crise un peu dans le groupe, ils se parlent plus. Donc le morceau qu'on va entendre s'appelle Helter Skelter, il fait partie d'un album qui n'a pas de nom, qu'on appelle White Album, en général l'album blanc, ils se parlent plus. Donc John passe, il enregistre un truc, il repart, dont tu le mets dans la boîte, hein, Geoff, parce que Geoff aime. Geoff Emerick, c'est leur ingénieur du son. Après, McCartney passe, tu le mets dans la boîte, hein, Geoff. Puis après, Harrison passe, donc, et l'autre, il se retrouve. Alors, il va voir George Martin, qu'est-ce que je fais? Parce que là, puis là, c'est pas facile de, quand t'as trois, bon. Et donc là, ils se réunissent ensemble. Bon, les gars, on va faire du rock, on va faire du bruit aujourd'hui. Et ils font un morceau qui s'appelle Helter Skelter. Alors, j'en reparlerai peut-être un petit peu après. Qui est considéré quand même comme un des premiers morceaux, peut-être quasiment le premier, estampillé, hard rock heavy metal. Fait par les Beatles. Donc vous allez pouvoir en juger par vous-même.
Look out, hell is gonna, hell is gonna,
On sentait qu'il y avait une tension quand même. Patrice, ça, tu le disais, mais là, ils sont un peu engueulés à la fin du morceau. C'est les chroniques impromptues, vous êtes sur Attitude, c'est l'autre musique. Je laisse bien sûr le micro au maître.
Alors non, c'est Ringo Starr à la fin qui dit j'ai des ampoules sur les doigts. Alors ça n'a rien de spécialement métaphysique. Alors ce morceau, c'est un morceau qui fait quand même pencher la tête, hein, un peu comme ce qu'on appelait les handbangers. Hein, et on entend ces rythmiques extrêmement acérées, ces rythmiques répétitives, ces petits passages de solo d'Harrison, la voix criée. Alors ce morceau, Helter Skelter, c'est aussi la chanson. Alors cette chanson est devenue très particulière parce qu'elle avait donné la révélation à Charles Manson que le peuple noir était le danger aux États-Unis, qu'ils allaient bientôt être plus nombreux que les blancs, qui l'a poussé à créer la famille et qui l'a poussé à faire commettre les meurtres, enfin, dans la maison de Sharon Tate, qui a été racheté par Trent Reznor, qui a enregistré l'album The Downward Spiral, qui est une parodie dans le nom de Helter Skelter, qui veut dire une sorte de quelque chose de circulaire, une descente aux enfers circulaire. Donc, il y a une histoire sur cette chanson. Voilà. Alors, je disais en introduction, en guise de préambule, que les Beatles, c'est un peu des caméléons. Alors, l'album Revolver, c'est un album extraordinaire. C'est le premier album que va enregistrer Geoff Emerick, alors, dont je vous recommande un excellent bouquin qui s'appelle « En studio avec les Beatles ». Et il arrive, alors, faut savoir que Geoff Emerick, il s'ennuie. Il est à l'école, donc il s'ennuie, forcément, puisqu'il est à l'école. C'est un prof qui vous le dit. Donc il s'ennuie. Et moi, ce que j'aimerais, c'est enregistrer des groupes. Donc il y a un conseiller d'orientation qui lui dit, mon pauvre vieux, tu t'imagines qu'à 15 ans tu vas enregistrer des groupes. Et il se trouve que à Abbey Road, il y a les studios de EMI, EMI, et il recherche un petit assistant, un petit apprenti. Il propose Geoff Emerick qui y va, et là il arrive à 15 ans, enregistrement des Beatles. Donc imaginez le truc, il rentre, les Beatles viennent d'enregistrer une chanson, et là il y a un type qui rentre, les fans, il dit quoi les fans? Et là des centaines de groupies rentrent dans le studio, qui savait que les Beatles étaient là, donc il faut cacher les Beatles, hein, sinon on sait pas comment ça se termine. Les policiers arrivent, mais maîtriser des centaines de fans, c'est pas facile, surtout des filles déchaînées. Donc pendant que t'as un Bobby's qui arrive à attraper une groupie, t'en as 10 qui lui sautent dessus, un truc. Et lui, il y a 15 ans, il regarde, il dit qu'est-ce qui se passe. Et quelques années plus tard, pas longtemps après, hein, 3 ans plus tard, il a 18 ans et il est l'ingénieur du son de Revolver. Il a que 18 ans, ce qui est quand même très peu. Et là, il commence à bien connaître les Beatles et il se rend compte que ce sont des gens qui ont une créativité assez incroyable. Et alors, il y a différentes façons d'envisager les arrangements. McCartney, c'est toujours ce qu'il va faire. Donc quand il arrive, alors Eleanor Rigby, c'est la chanson qu'on va écouter, il sait exactement ce qu'il va faire. Il va abandonner les instruments typiques de la pop, donc il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de batterie, c'est terminé. Il y a une section de cordes. Alors il l'a conçu en voulant imiter un peu les musiques, alors pour ceux qui connaissent, les musiques de Bernard Herrmann, qui faisait les musiques de Hitchcock, notamment, entre autres, Psychose, La mort aux trousses, etc. Et vraiment, cette chanson, dans le monde de la pop en 1966, c'est vraiment original. C'est vraiment, avec des voix, hein, des voix quand même assez travaillées. Alors, c'est pas les Beach Boys que nous écoutions la semaine dernière, mais quand même, et surtout cette partie de corde assez incroyable, et cette chanson finalement très courte, en 2 minutes, tout est dit. We'll be right back. Alors c'est une jolie fresque, hein, Eleanor Rigby, c'est une très très belle chanson. Alors c'est vrai qu'on abandonne le côté, on parlait avec les Beach Boys, ce côté lumineux, ce côté ces accords majeurs, mais là c'est pas du tout ça, c'est des accords, on est sur une gamme mineure, quelque chose de beaucoup plus sombre, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on attend de la pop à ce moment-là. Alors faut savoir qu'à partir de cet album, les Beatles vont arrêter de faire les concerts, parce que de toute façon on les entend plus. Ils jouent dans des stades. Alors le concert, la durée moyenne de concert, c'est 22 minutes. Alors c'est la machine à dollars. Hein. Brian Epstein, leur manager, il se frotte les doigts. Bon, il va mourir pas longtemps après, mais il mourra très riche. En tout cas, Baby, You're a Rich Man. Il y a une chanson qui s'appelle comme ça. Les Beatles, ça parle de Brian Epstein. Donc bref. Donc là, non, Rigby, voilà, c'est une espèce de petit bijou. Alors McCartney, c'est toujours ce qu'il veut. Alors Lennon, c'est autre chose. Alors déjà Lennon, il donne des images. Alors tu vois là, il va voir l'ingénieur du son. Lui là, tu vois. Ma voix, t'imagines, imagine par exemple le Dalai Lama qui crie au sommet de l'Himalaya, faut que tu me fasses ça. Quand on a 18 ans, c'est pas simple. Et le problème de ces... Alors le problème, non. Ce qui est formidable, c'est qu'ils ont tellement de créativité qu'ils ont plein de chansons en tête. Donc parfois, ils assemblent plusieurs chansons dans une. Il y a une chanson qui est, moi, que j'adore, que je trouve incroyable, qui s'appelle I Am The Walrus. Et dans cette chanson, alors là, c'est une chanson de John Lennon, il y a trois chansons, et avec ces trois chansons, il en fait une. Donc John Lennon conçoit toute la partie guitare, basse, batterie, clavier, chant, etc. Et pour donner de l'ampleur un petit peu, parce que c'est toujours pareil, il a des idées mais on sait pas ce qu'il veut. Donc il y a George Martin. Alors la grande force des Beatles, c'est George Martin. Alors j'en parlerai un petit peu après de George Martin, un personnage incroyable dans l'histoire de la pop. Mais en tout cas, George Martin, c'est quelqu'un qui a fait du conservatoire, un peu François Robert pour Jacques Brel. C'est ce type qui, sur un canevas de chanson, va te sortir des arrangements incroyables. Alors, les arrangements de Jacques Brel, qu'on avait fait dans les chroniques impromptues, n'est-ce pas? Voilà. Tout est dans les chroniques impromptues, finalement. Tout est dans l'autre musique. Tout est dans l'attitude. Voilà. Tout est dit. Bref. Donc, quoi qu'il en soit, donc, quand même, The World West, une chanson assez incroyable, assez psychédélique. Et alors, George Martin va, l'idée de génie, de rajouter des petits collages sonores. Alors, ça, on en reparlera ensuite. Et surtout des arrangements de cordes. Alors là, l'ensemble des instruments de la pop, de ce côté psychédélique, des arrangements de cordes, des mots inventés aussi, puisque dans cette chanson, Lennon s'amuse à inventer des mots. C'est une chanson vraiment qui est assez, en plus longue pour l'époque, parce que là, on est sur 4 minutes 35, et une chanson pop à cette époque-là, 4 minutes 35, ça commence déjà avec long. The End des Doors, je crois, 7 minutes... c'est exceptionnel. Enfin, à l'époque, ça ne se fait pas, quoi. Il y a que des groupes de cette trempe-là qui peuvent se le permettre. Donc bref. Donc en tout cas, I Am The Walrus, alors sur l'album Magical Mystery Tour. The road.
Faut que je laisse jusqu'au bout parce que je vais me faire engueuler. C'était les Beatles. Vas-y, je prends Pitou avec moi. Il est là notre Pitou. Donc les Beatles à l'instant dans l'autre musique sur Attitude, c'est les chroniques impromptues, la deuxième émission de, on va dire de fin d'année, hein, parce que mardi dernier c'était les Beach Boys et ce soir en 2024 de janvier. Et oui, et c'est les Beatles, mon cher Patrice.
Alors tout à fait. Alors I Am the Walrus, hein, avec une chanson dans laquelle on entend bien distinct des éléments. Il y a l'instrument de la pop, il y a la les cordes. Vous avez remarqué qu'il y a des petits collages, des gens qui rient, des gens qui. Vous avez remarqué. Et à la fin, l'intro est complètement psychédélique parce que tout est mélangé. Et tout se rassemble à la fin, donc c'est assez fort. Hein, et tout se rassemble, espèce de coda, hein, ça s'appelle comme ça, la fin d'une chanson, d'une musique en, voilà, en langage musicologique. Et c'est coda complètement psychédélique, cette chanson de Lennon. Alors, George Martin, c'est un type qui, donc, lui, travaille chez EMI, est producteur, a beaucoup de talent, est très respecté. Et c'est lui, qui, notamment avec Brian Epstein, a déniché les Beatles. Alors, au début, il impose ce qu'il veut aux Beatles. Donc c'est lui qui décide, c'est lui qui sait, on fait ceci, on fait cela. Mais les années passant, il n'impose plus grand-chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la notoriété des Beatles devenant assez énorme, il propose des choses, mais il n'est plus en mesure d'imposer au groupe ce qu'ils veulent faire. Il est bien embêté sur l'album blanc dont on a parlé tout à l'heure, lorsque les Beatles ne se parlent plus, alors là, il ne sait plus comment faire. Et alors les Beatles, effectivement, à un moment donné, il y a une scission. Hein. En 1968, on sent, et le chant du cygne pour les Beatles, c'est l'année 1969. Alors là, ils pensent se renouveler en appelant Phil Spector, qui était l'idole de Brian Wilson. Hein. Et donc Phil Spector arrive avec un ego démesuré, comme vous pouvez l'imaginer. Non, mais c'est quand même un type chez lui qui, lorsqu'il recevait des invités, il les faisait attendre 2 heures. Et quand il arrivait, il mettait la musique baroque avec des perruques. Non, mais, je veux dire, faut quand même un ego démesuré. Donc bref, donc ils vont faire l'album Let It Be, dont certains fans des Beatles disent que les arrangements de Phil Spector gâchent l'album, hein, carrément. Et à un moment donné, Ringo Starr, alors lui qui joue de la batterie en général et touche les royalties, ne compose aucune chanson, est pas content. Il dit, bon les gars, est-ce que vous savez ce qu'on représente pour tous les jeunes, les Beatles, c'est quand même pas rien, donc on leur doit au moins un dernier album ensemble. Et alors là, John est invité à laisser Yoko Ono à la maison. Les Beatles se retrouvent. Et ils vont enregistrer l'album qui est un album absolument incroyable, qui s'appelle Abbey Road, qui est extrêmement avant-gardiste aussi. Alors, à l'époque, sur le vinyle, la deuxième phase, tout s'enchaîne. On est sur du progressif, hein. Donc, pas avant l'heure, mais pas loin quand même, hein. Et alors, il y a une chanson, moi je trouve qu'il y a une véritable pépine dans cet album, qui est une chanson qui s'appelle Because, qui est une chanson de Lennon. Alors, il est assis sur son canapé, il est chez lui, et il entend Yoko Ono jouer du piano, elle joue la sonate au clair de lune de Beethoven, alors qui est un morceau, je sais pas si vous avez vu Elephant de Gus Van Sant, il y a un morceau de piano, alors il y a un garçon qui marche dans une université américaine, et on a un morceau de piano très triste, mais vraiment dramatique, etc. Et il entend ça, il entend les premières notes, le soir même, la chanson était faite, bien entendu, bon bref. Et vous allez voir, le début rappelle le début de la sonate de Beethoven, hein, de Beethoven. Et puis là après, les voix. Alors, parlons des voix un petit peu. Alors c'est vrai, c'est pas la qualité technique des Beach Boys, mais quand même, sur cette chanson, vous allez voir, on est sur des polyphonies à 3 voix, c'est très beau, il y a des accords pas si évidents, il y a des beaux aigus, c'est vraiment une très très belle chanson, Because... Yeah.
Là, Patrice, le côté Beach Boys, c'était un morceau des Beatles que Patrice va vous donner le titre, vu que moi, j'ai un très mauvais anglais. C'est les chroniques impromptues, c'est l'autre musique sur Attitude.
Mais aurais-tu oublié tes cours d'anglais au Collège des Rochers, Stéphane? Allons. Donc, c'est une chanson avec Because, hein. Voilà, une chanson inspirée d'une sonate de Beethoven. Alors, c'est ça peut-être aussi la différence entre les Beatles. En tout cas, McCartney, Lennon, Harrison, ces gens qui sont très ouverts à tout ce qui se passe autour, qui écoutent, qui vont voir des expos, des concerts. Brian Wilson, c'est un type qui reste chez lui. Voilà, il regarde Flipper le Dauphin toute la journée. Si, vraiment. Il a un piano dans un bac à sable, il joue du piano, il a toujours du sable. C'est un personnage isolé, alors qu'eux ont une vie sociale, etc. Enfin, culturelle, bon voilà. Alors, la force des Beatles, c'est de brasser un peu tous les genres musicaux. Parce que là, finalement, on a écouté quatre chansons, il y en a pas une qui se ressemble. Et la particularité des Beatles à partir de 1966, c'est justement cela. C'est qu'il n'y a pas une seule chanson qui se ressemble, mais ça reste du Beatles. Donc c'est ça qui est très fort. Ça reste vraiment, ça ne peut pas être un autre groupe, en sachant que tout est différent. Alors une chanson qui est restée extrêmement... les jeunes la jouent beaucoup, cette chanson qu'on va écouter, lorsqu'ils se mettent à jouer de la guitare. C'est une chanson qui s'appelle Blackbird. Blackbird, c'est un oiseau noir, hein, c'est ce que ça veut dire. Et alors, il y a plusieurs origines à cette chanson, mais l'origine de cette chanson, c'est le combat des Afro-Américains pour aller à l'université aux États-Unis. Alors, je vous conseille un excellent bouquin qui s'appelle Red Rock 1957 de Thomas Degaroff, qui est vraiment un excellent bouquin sur ces premiers Afro-Américains et Afro-Américaines notamment, qui vont vraiment vouloir revendiquer le droit, la liberté d'apprendre. Et quand alors il y en a qui disent que c'est Martin Luther King qui aurait influencé McCartney, mais non, parce qu'en fait la chanson a été faite avant, donc c'est pas Martin Luther King. Mais c'est vraiment le combat de ces à Red Rock, hein, de ces étudiants et étudiantes qui a vraiment poussé McCartney à faire cette chanson. Alors cette chanson, elle est belle parce qu'en fait elle est très courte. Il y a un talent de mélodiste évident, et puis cette partie de guitare magnifique, c'est tout en arpèges, c'est superbe, c'est de la musique folk. Donc après avoir écouté du hard rock, du heavy metal, la musique classique et la musique psychédélique et un peu une sorte de musique très chorale finalement inspirée de Beethoven, ben maintenant on est dans une musique folk jouée en picking dans l'esprit un peu américain.
Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night,
take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the line of a dark black. This moment to arise, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Ça me rappelle une chanson de Granddaddy qui s'appelle Songbird Song, et qui se finit comme ça, avec une guitare et avec des chants d'oiseaux d'ailleurs. Et alors là, ce morceau-là, il n'est pas inspiré de Beethoven, mais de Bach. Parce que il y a une pièce, alors faut le connaître quand même, une sonate pour luth de Bach, absolument obscure. Bon, McCartney, il s'entraînait à le jouer, il l'écoute, il en fait Blackbird. Bon, ben voilà. Hein. Donc voilà. Alors les Beatles, à un moment donné, en 1966, il y a un tournant dans leur carrière. C'est une tournée aux États-Unis dans laquelle les choses deviennent tellement incontrôlables. Les concerts ne représentent pas du tout la créativité du groupe. On les entend pas jouer. Alors regardez le DVD Imagine, qui raconte un peu l'histoire de John Lennon. C'est basé que sur des interviews de John Lennon, c'est assez passionnant. Et on voit justement, à un moment donné, le groupe qui rentre sur scène pour jouer ses 20 minutes de concert, avec les fans qui hurlent, etc. Brian Epstein qui regarde, lui, il voit les dollars, lui, il n'y a pas de souci. On a même vendu dans des boîtes de conserve l'air respiré par les Beatles, faut quand même le savoir. Les draps où ils dormaient, découpés en carrés d'un centimètre, enfin,
on n'a rien inventé aujourd'hui.
non. C'est autre chose que la K-pop quand même. Enfin, si je peux me permettre, ça met sur mon côté vieux con, mon côté réac. Mais voilà. Mais donc, à un moment donné, les Beatles sont dans l'avion, ils reviennent des États-Unis, puis ils se regardent, ils disent, bon, ça peut plus durer comme ça, quoi. Je veux dire, ça, c'est plus possible, c'est plus... Ils en sont toujours à jouer leur premier tube, alors qu'ils viennent de faire sortir Revolver. Donc, à un moment donné, c'est plus possible. Ça, c'était pas possible. Et, ils se disent, si on arrêtait d'être les Beatles, si on avait trouvé un alter ego, alors à ce moment-là, ils décident de s'appeler Sgt. Pepper. Comme ça. Et, si on faisait un concert imaginaire, mais si on faisait le concert qu'on aimerait donner, le concert qu'on aimerait faire aujourd'hui, qui nous représente vraiment. Et alors, comme ils reviennent des États-Unis, ils vont donc faire cet album qui s'appelle Sgt. Pepper, qui est considéré comme un des plus grands albums de l'histoire de la pop, de la musique tout court. Hein. Donc voilà. Et le premier morceau, une espèce de mélange. Alors vous allez voir, vous allez entendre comme un concert qui se prépare, des gens qui parlent, des instruments qui s'accordent. La musique commence très californienne, hein, très alors Jefferson Airplane, pour ceux qui connaissent Chicolina, Quicksilver Messenger Service, tout ça. Donc on est vraiment sur du rock californien des années 60. Et alors là, vous allez voir, c'est incroyable parce que il y a ce côté américain, ces collages de gens qui rient, qui applaudissent, qui disent des choses, etc. Donc ça, c'est des collages, ce sont des sons un peu concrets qui sont mis. Et il y a le côté un peu édouardien anglais avec la fanfare de cuivre. Et ces voix inimitables des Beatles avec Lennon, McCartney, Harrison. Donc c'est vraiment, je trouve, en deux minutes, c'est le morceau qui ouvre l'album Sgt. Pepper. C'est vraiment un morceau incroyable.
Les morceaux s'enchaînent, hein, Patrice. Je suis obligé de couper. Ah, c'est pas de ma faute, là. Ah, là, ça passait sur le, ah, là, je n'y suis pour rien, monseigneur.
Tout à fait.
Alors, c'était donc les Beatles, les chroniques impromptues. Ah, ben, en janvier, hein, c'est ça, c'est les maladies, ça. Tu commences bien 2024.
C'est la fin d'année, un peu fatigante, mon pauvre Campana. Non, mon Stéphane. Non, donc voilà. Donc, la bande Sergeant Pepper, alors, qui n'est pas un concept album. C'est pas conçu comme un concept album, mais il y a des morceaux qui s'enchaînent. Voilà, là, sans s'enchaîner sur une chanson chantée par Ringo Starr qui s'appelle With a Little Help from My Friends, qui a été un tube, d'ailleurs. Alors, on va parler un peu de George Harrison. Alors, George Harrison, il est très très vite débauché par les Beatles, très jeune. Il est très jeune, il a pas 18 ans, mais il joue bien. Mais c'est un super guitariste. Et il se trouve que McCartney et Lennon jouent bien, mais ils ont pas cette aptitude à faire les solos. Donc, ils vont jouer à Hambourg, en Allemagne. Alors là, à Hambourg, on est dans les bars-concerts où il y a les marins, les ouvriers, les dockers, les prostituées, ça se castagne. C'est là que les Beatles vont devenir les Beatles. C'est-à-dire que pendant cette petite année qu'ils vont passer là-bas à dormir au-dessus d'une salle, à l'étage, pas chauffé, etc. C'est là vraiment qu'ils vont faire leurs armes. Et quand ils reviennent à Liverpool, ils ont un répertoire de, je sais pas, de dizaines et dizaines de chansons, et c'est là que Brian Epstein va les découvrir. Et donc, alors pourquoi je disais ça? Alors oui, alors George Harrison, donc, est très vite débauché par le groupe. Ils sont obligés de mentir sur son âge. Non, mais imaginez quand même, il a pas 18 ans, il ment sur son âge pour qu'il aille jouer dans ce genre de bar avec les Beatles en Allemagne, alors qu'il est de Liverpool. Alors je sais pas, pour les personnes qui ont des enfants. Voilà. Bon. Bref. Donc. Il y a une certaine liberté à cette époque. Bon, l'école, on va dire que l'école, que ce soit Pink Floyd, les Beatles, tous ces grands groupes, ça n'a pas été la préoccupation première, mais voilà ce qu'ils sont devenus. Alors après, voilà. Et donc, George Harrison, très vite, c'est quelqu'un qui va avoir une certaine frustration, parce que sur l'album Revolver, il y a 14 chansons, il n'y en a que 3 de Harrison. Alors, il y en avait plus, mais il n'a pas le droit de les mettre. Donc, il ne met que ce qu'on le veut bien, lui. Alors, il y a 2 chansons qui sont excellentes d'Harrison sur l'album Revolver, c'est Taxman, la première qui est super. Et il y en a une autre. Parce que très vite, Harrison, alors vous connaissez peut-être ces concerts de charité, type les Enfoirés, ce genre de choses, de concerts de charité, c'est sur George Harrison qui l'a inventé. Pour le Bangladesh, hein, c'est les premiers concerts de charité, c'est Harrison. Et très vite, il se rend compte que le monde est pas juste, est pas égal, et ça, pour lui, c'est très compliqué. Et très vite, il va s'intéresser notamment à un pays qui est fascinant, qui est aussi captivant qu'insupportable, c'est l'Inde. Et très vite, là-bas, il va se mettre à la méditation, devenir végétarien, etc. Et il va se mettre au sitar. Et son prof de sitar, c'est pas n'importe qui, c'est quand même Ravi Shankar, donc qui est quand même le joueur de sitar le plus célèbre, le plus emblématique de cette musique-là. Et il va se mettre à la spiritualité, à la musique indienne. Et il y a un morceau sur Revolver qui s'appelle Love You Too, qui commence par un solo de sitar dans lequel on entend ce morceau. Et il y a un joueur de tabla qui sont 2 petites percussions qui sont comme, comment dire, tout petit djembé, peut-être de 10 cm de diamètre, 20 cm de diamètre. Alors là, il y a un jeu, mais d'une virtuosité assez incroyable au tabla. Et c'est vraiment la première incursion de la musique indienne, mais quasiment, même peut-être avant Brian Jones, des Rolling Stones. Hein. Donc là, on est encore une fois précurseur. Love You Too sur l'album Revolver, ce très beau morceau, cette très belle chanson de George Harrison, Love You Too. Thank you. On a vraiment en mini, tout est petit dans votre vie. Non, ça c'est du tronc. On a vraiment en miniature une structure de musique indienne. Parce que la musique indienne, ça s'étend sur au moins plusieurs heures, hein, avec des structures de développement alors qu'on a là, mais en bien plus réduit. Vous avez peut-être entendu en fond cette percussion qui fait des sons dans tous les sens, c'est le tabla. Donc voilà. Alors, on revient en 1968, donc les Beatles s'entendent plus. Ils ont été en Inde, à Rishikesh, aux sources du Gange, faire la méditation avec... Il y avait Mike Love, des Beach Boys d'ailleurs, qui était là, qui faisait la méditation aussi. Il y avait un parterre de stars un petit peu, qui venait avec un gourou qui s'est bien fait de l'argent, je pense, à ce moment-là. Donc bref. Et à ce moment-là, pour John Lennon, c'est compliqué. Il est marié. Il a un fils, Julian Lennon, et depuis quelque temps, on peut dire que c'est quelqu'un qui a pas été très souvent présent, hein, déjà de par sa, comment dire, son groupe, hein, de par les Beatles. Mais du coup, là, il vient de rencontrer Yoko Ono, c'est le coup de foot, c'est son âme sœur, il sait que c'est avec elle qu'il veut vivre, donc il faut qu'il quitte sa femme et son fils dont il s'est jamais vraiment occupé, donc c'est un peu compliqué. Il est un peu dans les tourments de l'âme, je dirais. Hein. Et là, c'est peut-être là où les Anglais l'ont peut-être mieux réussi que les Français. Ils se tournent vers le blues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le seul langage musical qui permet d'exprimer ce qu'on a de plus tourmenté ou désespéré ou dramatique au plus profond de soi, c'est le blues. Et donc là, il fait une chanson qui s'appelle Year Blues, alors que moi je trouve qu'il y a un blues incroyable. Alors, sur YouTube, on peut en voir un live qui est dans le Rock'n'Roll Circus, cette espèce d'émission des années 60. Il y a une version qui est extraordinaire avec des solos de George Harrison qui sont vraiment très bons. Mais là, donc sur l'album blanc, il y a ce blues là qui est vraiment, moi je trouve, qui est vraiment bien choisi, qui va vraiment un peu aux racines un peu musicales en quelque part de ce genre, et puis qui est vraiment l'expression de quelqu'un qui sait plus trop où il en est, qui est un petit peu, le groupe lui échappe, voilà, c'est un petit peu un tournant de sa vie finalement. You know the reason why.
ici nous écoutons les morceaux en entier. C'était les Beatles, bien sûr, dans l'autre musique, les chroniques impromptues avec Patrice, une émission sur Beach Boys mardi dernier. Pour commencer cette nouvelle année 2024, qu'est-ce qu'il y avait de mieux que les Beatles, mon cher?
Mais tout à fait, hein. Et puis on peut les mettre au fin fond des États-Unis, dans le sud, dans un bar avec des rednecks, hein. Ils joueront les Beatles, il n'y a pas de souci. Ils vous sortiront des blues, il n'y a pas de problème. Alors, cette grande diversité des Beatles, il y a une musique dont on n'a pas trop parlé encore pour l'instant, c'est le jazz. Les Beatles n'ont pas pu jouer plus de jazz que ça, mais le père de Paul McCartney faisait partie d'un orchestre qui manquait un peu de clarinette, hein, n'est-ce pas, mon cher Campana? Donc, à un moment donné, alors, les Beatles, c'est pas compliqué, tout peut devenir une chanson. Donc, à un moment donné, McCartney pense à son père, il se dit, oh bah tiens, moi aussi, quand j'aurai son âge, quand j'aurai 64 ans, hein, puis il commence à gamberger, puis il commence à avoir une mélodie qui arrive, et puis il décide de faire, alors cette chanson, alors, qui est un classique, hein, 1M64, qui, voilà, avec ce petit côté un peu ingénu au début, chanté par la voix un peu inimitable quand même de McCartney, et puis avec ce genre de, comment dire, de jazz un peu New Orleans, un peu vieille école, hein, un peu vieille époque. Alors c'est une chanson qui figure sur l'album Sgt Pepper. Alors encore un album sur lequel aucune chanson n'est identique à l'autre, évidemment. Et 1M64, c'est vraiment une chanson extrêmement originale, moi je trouve, dans la carrière des Beatles, entre eux, ce côté un peu léger du couplet, ce refrain un peu plus profond, un peu plus dramatique. C'est une très très belle chanson de McCartney. Chanson de Paul McCartney. Alors on va rester sur Sgt Pepper, hein. Ça reste quand même le grand œuvre des Beatles. Alors Day in the Life. Alors en général, Abbey Road au studio, on fait soit une chanson de Lennon, soit une chanson de McCartney. Bon, et là Day in the Life, c'est particulier parce que c'est une chanson de McCartney, une chanson de Lennon réunies dans une. Ils ont inventé chacun finalement une chanson, on ne sait pas trop quoi faire. Au même moment, ils s'appellent, y a une chanson, je sais pas quoi en faire, ben ça tombe bien, moi non plus. Et ben tiens, on va en faire une. Et alors, il se trouve que les deux chansons ont deux esprits complètement différents. Et alors, il faut arriver à passer de l'une à l'autre. Et alors là, comme les Beatles ont tout pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Il nous faut l'Orchestre Symphonique de Londres. Donc George Martin dit, vous aurez l'orchestre symphonique de Londres. Et donc là, les musiciens arrivent, il n'y a pas de partition. Alors George Martin, oui, mais ils font quoi? Alors voilà, alors il s'adresse à l'orchestre, il dit, voilà ce que vous allez faire. Vous partez de la note la plus grave de votre instrument jusqu'à un mi aigu. Bon, donc les gars font ça. Vous nous regardez, on vous fait des signes. Quand on fait signe vite, vous accélérez, enfin bon. Et ça va vous donner le break que vous avez, qu'on a à deux reprises, qu'on a au milieu, qui passe de la chanson de Lennon à la chanson de McCartney, et à la fin, avec cette fameuse fin extrêmement célèbre, hein, qu'on laissera jusqu'au bout d'ailleurs. Il faut savoir que les disques de l'époque, les vinyles, passaient en boucle, et vous verrez, imaginez la fin en boucle. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une très bonne fin de soirée.
Ça, c'est moi qui le coupe parce qu'autrement, lui, Patrice, il est parti. Mais moi, j'ai toujours l'œil sur le chrono, comme d'habitude. Et après, je me fais engueuler. Vous, c'était très bien. Non, merci, Patrice. Ouais, merci. Donc, c'était les chroniques impromptues et on essaiera d'en refaire, bien sûr, en 2024, bien sûr. Et on va essayer, bien sûr, chaque fin d'année, maintenant, de faire deux émissions comme ça entre Noël et après le premier de l'an. Voilà. Donc, nous, on se retrouve mardi prochain à 20h pour l'autre musique normale. On vous souhaite une excellente semaine, un bon début d'année, une bonne année bien sûr vu qu'on est le 2 janvier. Patrice, merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne soirée et bonne année.
Et Pitou, merci beaucoup aussi de nous accompagner et bientôt tu seras ici. Hein. Ça c'est moi qui te le dis. En 2024, tu n'y couperas pas. Allez, on se quitte donc avec ce titre des Beatles, A Day in the Life. Et je l'ai bien dit, A Day in the Life. Ouais, j'ai fait ce que... Et je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve mardi prochain à 20h. Salut. Charming.